Je suis à l'hôtel Métropole à Genève avec Andréa Bascon et Éric Métayer. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présents ici pour Les Chatouilles, qui va sortir prochainement sur les écrans en Suisse romande, surtout qui est présenté dans le cadre du festival GIF, Geneva International Film Festival. Voilà, je l'ai dit. Et surtout, c'est un film que vous avez créé ensemble, ouais. Contrairement au spectacle qui a été présenté l'année passée au Théâtre du Léman, justement, où là, vous étiez seul en scène, vous avez fait la mise en scène. Donc là, c'est un travail qui était en symbiose, en oui. Une sorte de collaboration harmonieuse. Quelle est la différence entre ce que vous avez fait précédemment pour le spectacle de danse et seul en scène, et ce film où, là, bien sûr, aussi, vous avez des comédiens. C'est, je pense, un travail totalement différent.
Ah oui, c'est totalement différent. Et en même temps, on a toujours fusionné avec Eric. Même du coup, pour le spectacle, j'avais écrit le texte, mais Eric l'avait mis en scène. Et en même temps, il y avait un peu de mise en scène dans le texte. Et dans la mise en scène, il y avait aussi du texte. Enfin voilà, les choses s'étaient imbriquées comme ça au fur et à mesure de notre travail ensemble. Donc évidemment, de faire le film tous les deux, ça coulait de source et c'était impossible autrement. Oui, c'est un travail littéralement différent. D'abord parce que c'est un autre outil, que le cinéma est beaucoup plus frontal quand même. Donc il fallait qu'on apporte l'humour et la poésie qu'on avait trouvé par le biais du spectacle vivant dans l'outil du cinéma. Et c'était pas forcément évident. Donc on s'est bien creusé la tête. On a revisité les situations, on a renoncé à certaines situations du spectacle, on en a développé d'autres pour le film, et puis c'était quelques années après, donc on était prêt aussi à parler d'autres choses par rapport à ce sujet des violences sexuelles sur mineurs, et aussi de la résilience, et du moins de ce combat pour aller mieux. Donc ça s'est fait un petit peu naturellement, comme ça, au fil de nos discussions.
Éric ?
Oui, bah, je n'ai pas grand-chose à rajouter. on sait se faire des renvois de balles. Donc, le spectacle, je pense, nous a servi à vraiment complètement cerner notre fonctionnement à tous les deux. Ce qui fait que quand on est arrivé sur le film, on savait complètement ce qu'on avait envie de faire sans vraiment se poser de questions. On savait qu'on voulait retrouver ce qu'on avait dans le spectacle, c'est-à-dire du rire, de la vie, de l'amour, de la folie,
la lumière,
et de la poésie et de la lumière. Ça, on savait qu'on voulait ça. On voulait surtout ça. Bon, à partir de ce moment-là, ça a été assez fluide au niveau de l'écriture. Le plus problème pour nous, c'était de dire, ces gens qui ont vu le film, la pièce, il faut qu'ils arrivent à retrouver les personnages qu'ils se sont tous inventés dans la tête, puisque c'était Andréa qui jouait tous les personnages. Là, c'était le plus compliqué pour nous au démarrage. Après, il y a toutes les complications d'un premier film, mais on s'est bien amusé.
Alors je rebondis sur vos propos respectifs. Justement, là, il y avait plusieurs personnages. Il y a Karine Viard qui est exceptionnelle, exceptionnellement odieuse. Justement, on en vient à dire, mais cette mère, elle est totalement dans le déni, mais surtout dans la maltraitance. Elle met tellement en doute la parole de sa fille par rapport au regard social et surtout le mal que va causer les révélations de sa fille. Et Clovis Cornillac, dans le père bienveillant, aimant. Et cette jeune actrice qui vous interprète donc le rôle d'Odette, jeune. Vous l'avez trouvé comment? Elle est exceptionnelle. Et puis, est-ce que les autres acteurs, vous les avez choisis déjà au moment de l'écriture du scénario?
Il y en a une qu'on a choisie. Parce que on donne cet exemple-là parce que pour nous, c'est vraiment un truc très fort. C'est qu'on a écrit, enfin, André a écrit la pièce, on l'a mis en scène, on a préparé cette chose-là. Et dans notre grand délire, on disait d'abord, il y aura une standing ovation à chaque fois que le spectacle se jouera. On avait marqué standing ovation à la fin du papier qu'on avait écrit avec toutes les scènes. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et puis après, on disait, ouais, de toute façon, on en fera un film. Et puis, on aura Karine Viard pour jouer le rôle. Mais c'était un vrai délire. Et quand on s'est retrouvé à faire le film, ben, on s'est retrouvé avec Karine. Tout de suite, dans notre tête, c'était Karine. Bon, pour les autres. Pierre de Lalonchamp qui joue le prédateur, là c'était plus une idée qui nous est venue de notre casting director. Moi je l'avais vu au théâtre, mais je ne le connaissais pas encore vraiment en jeu de comédien, et ça a été tout de suite ce qu'on voulait. Voilà, pour les autres, Andréa répondra, on se lance très bien la balle.
Non, mais après vous parliez de Cyril Mérès qui interprète Odette enfant. Cyril, nous l'avons rencontré par le biais des personnes qui s'occupaient du casting enfant. Il y avait trois rôles enfants importants, donc Odette, Manu et Benjamin. Donc évidemment, Odette étant ce personnage principal, il fallait qu'on trouve l'évidence. Et quand on a vu Cyril, la première fois, on l'avait juste sur un écran, on ne l'avait pas encore rencontré. On s'est dit, c'est elle, parce qu'elle a une force dans le regard incroyable. Elle n'a pas besoin de parler, en fait.
Le non-verbal.
Voilà, exactement. Et ce qui, forcément, fait sens avec le propos, c'est-à-dire quand un enfant est en état de sidération, quand il se plonge dans un mutisme, puisque, évidemment, c'est trop violent ce qui lui arrive pour pouvoir le verbaliser. Évidemment, Cyril était la parfaite interprète pour ça, et c'est une enfant qui avait été éveillée par ses parents sur ce sujet. On a autant casté les parents que l'enfant, franchement, parce qu'on voulait pas de parents un peu malsains, qui voulaient d'une enfant star, enfin, qui la pousse à outrance. Non, on voulait des personnes équilibrées. C'était très important pour nous d'avoir des personnes bienveillantes en face de nous dans un dialogue. Ce qui a été le cas, on a eu beaucoup de chance. Mais Cyril ne serait pas cette petite fille sans ses parents-là, en même temps. Donc, voilà.
Elle était déjà habituée à la danse aussi ?
Pas trop, mais elle commençait la danse, puis elle a cette grâce naturelle. Donc, c'était assez simple de l'amener. Puis bon, le cinéma entre riches aussi. Et donc, je lui ai appris quelques mouvements. On savait tel ou tel mouvement qu'on allait filmer. Donc, on l'a fait travailler, elle a travaillé, elle a beaucoup travaillé, comme Karine Viard ou comme Clovis Cornillac. C'était vraiment une actrice professionnelle. Et c'est assez magnifique, quoi. Et elle n'a pas évité le sujet. Elle savait de quoi ça traitait, elle savait ce que c'était que les chatouilles. Elle avait vu le spectacle, on en a discuté ensemble. Enfin, elle était totalement en conscience de tout ça. Et elle a dit, du haut de ses 9 ans et demi, elle a dit, moi, je veux défendre ce propos, je veux apporter ma pierre à l'édifice de la protection de l'enfance, et donc je veux faire ce film.
Alors, les chatouilles, justement, on comprend de quoi il s'agit, mais en même temps, que ça soit dans votre spectacle ou que ça soit dans le film, ce n'est pas frontal, c'est souvent suggéré, on comprend, c'est d'autant plus violent pour le spectateur qui reçoit ce message, mais c'est en même temps peut-être aussi une sorte d'exutoire de libération pour vous.
Disons que bon, d'abord, on ne voulait pas éviter le sujet, quand même, mais on ne voulait pas heurter les sensibilités par des images crues et inutilement violentes. Tout le monde se visualise ce que c'est qu'un viol. Et on ne voulait pas montrer ça. On préférait montrer une porte qui se ferme ou filmer le regard de cet enfant désarroi ou la perversité de l'agresseur. C'était pour nous beaucoup plus intéressant de filmer la manipulation que l'acte en lui-même. Et puis le public, faut faire confiance au public, en fait. Vraiment, on part de ce principe-là. Après, parler d'exutoire par rapport à mon histoire personnelle. Je pense vraiment avoir fait le travail avant de faire ce film avec Eric. C'est-à-dire que le spectacle, oui, le spectacle a été un exutoire, le spectacle a été une forme de thérapie, entre guillemets, où j'ai
avec
pu, oui, j'ai pu comprendre en fait tous les mécanismes. En fait, moi, j'ai écrit ça de manière très instinctive, et plus tard, en fait, on m'a expliqué que tous ces mécanismes que je décrivais dans l'écriture étaient des mécanismes entre guillemets normaux pour des gens, pour une personne qui avait vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Donc oui, ça m'a vachement apaisé finalement, quand même. Et puis après, l'accompagnement évidemment des gens que j'aime et qui m'aiment en retour, qui m'a énormément apporté. Maintenant, faire le film, nous, on l'a abordé comme une chance. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais on l'a abordé comme une chance de pouvoir éventuellement faire passer un message, en tout cas d'offrir quelque chose au public et qu'il en fasse ce qu'il veut. Et puis la chance, en tant qu'artiste, de devenir réalisateur, de pouvoir jouer dans notre propre film, de pouvoir diriger des acteurs tels que Karine Viard ou Clovis Cornillac ou Pierre de La Donchamp ou encore Cyril Mérès, parce que diriger une enfant au cinéma, c'est quand même pas une mince affaire. Donc voilà, c'était une chance, c'était une opportunité, on l'a pris comme un immense cadeau. Plus que pour moi, après, une thérapie, quoi. Ça y est, moi, j'ai fait ma route de ce côté-là, quoi. Ouais.
Alors, Andrea mentionne l'accompagnement. C'est aussi votre rôle, Eric.
Oui, enfin, c'était pas un rôle cherché. C'est un rôle d'une rencontre une rencontre amoureuse et une rencontre de personnes. Mais,
et familiale maintenant aussi.
Oui, maintenant, oui, c'est, enfin, on fait de la fabrication. C'est maison, c'est des produits bio. Hein,
la postérité.
C'est un film bio, ça. C'est un très bio film, d'ailleurs. Et non, oui, voilà, c'est, on voulait en parler, d'ailleurs, dans le film. C'est pour ça qu'on a rajouté le rôle de, qui n'existait pas dans la pièce de Lenny, joué par Greg Montel, parce qu'on voulait parler de ça, de cette difficulté de ces personnes qui ne savent pas de quoi... pourquoi le mal-être, pourquoi les...
C'est pas verbalisé.
Non, c'est pas verbalisé, donc il faut vivre avec, et on sait pas du tout comment réagir à cette personne-là, on sait pas non plus ce qu'elle est, on peut penser qu'il y a des problèmes réellement psychologiques et que ça n'a rien à voir avec une histoire.
Et on ressent une discrépance dans la personnalité, on ne sait pas pourquoi.
Voilà, exactement. Et là, c'est vrai que même pour le film, quand on projette le film, on a des retours aussi des accompagnants qui font... c'est génial parce que je comprends complètement ce qui se passait. Maintenant, je vois pourquoi par rapport au parcours, parce que c'est voilà. Alors, c'est le film est voulu plus large que ça. Hein. Il est quelque chose de plus universel dans le sens qu'on a tous des blessures, on a tous des souffrances et que malheureusement on ne les verbalise pas. Et c'est vrai que pour nous, c'est libérer la parole dans tous les sens du terme. Il y a énormément de... Il y a tellement de choses qui se régleraient si on se parlait. Et là, c'est le cas. Donc voilà, oui, l'accompagnant, il existe dans le film. On a voulu en parler. Mais on ne cherchait pas à refaire notre histoire dans le film. Hein. Je n'étais pas là pour dire on va parler de moi ou Andrea, on va parler que de moi. Non, on a créé quelque chose à partir d'une base qui est effectivement une histoire qui est celle d'Andrea et un peu la mienne, mais de là on a construit quelque chose pour essayer de rendre, j'espère, le film le plus universel possible.
Alors vous parlez justement de la difficulté de verbaliser, de libérer la parole par rapport à un traumatisme, avec l'histoire, les témoignages aussi de Flavie Flamand, on a eu la révélation qui était déjà connue de tous, mais on n'avait peut-être pas conscience de la fameuse mémoire traumatique. Votre génération est déjà peut-être plus ouverte à parler, mais on voit la difficulté à travers le personnage d'Odette, la mère qui est totalement dans le déni et qui culpabilise sa fille. Donc ça reste quand même très actuel, malgré le fait qu'il y a eu Françoise Dolto, qu'on a évolué au niveau...
Bien sûr. Après, effectivement, il y a quand même une avancée générationnelle, on ne peut pas le nier. Maintenant, il y a aussi des gens de la génération précédente qui ouvrent la parole et qui avancent dans ce sens. Et heureusement, et des gens plus jeunes qui se tairont toujours, quoi, et qui s'enfermeront dans ce secret. Bon, on ne peut pas synthétiser ça, mais en tout cas, je pense qu'on est sur le chemin, en tout cas, de cette libération de la parole. On est sur la route. C'est très complexe, hein. C'est toujours difficile de s'exprimer. On a peur de faire du mal autour de nous, alors que nous sommes nous-mêmes victimes de ces actes et de ces traumatismes. Et bon, je sais pas si après... j'espère vraiment qu'on est sur ce chemin-là. J'espère que les gens n'auront plus honte au fur et à mesure et qu'ils se relèveront. Maintenant, effectivement, des personnes comme la mère d'Odette, il y en a beaucoup, ces gens qui minimisent, qui disent « ça n'est pas arrivé » ou alors « c'est arrivé, mais enfin bon, c'est pas si grave que ça. Et puis tu es toujours en vie et tu ne vas pas ressasser le passé et maintenant il est temps d'avancer. » Enfin, toutes ces phrases bateaux, clichés... qu'on entend à longueur de temps et que je vois le nombre de témoignages que je reçois sur les réseaux sociaux où les gens me disent moi j'ai entendu ça de mon père, de ma mère, des hommes et des femmes.
Et la préoccupation du regard de la société.
Bien sûr, oui, parce que si les parents, entre guillemets, n'ont rien vu, ils sont forcément accusés de négligence, les violences sont aussi intrafamiliales, ce qui arrive énormément, il y a 75% des violences sexuelles qui sont dans le cadre familial, donc les parents eux-mêmes sont agresseurs, ou les oncles, tantes, grand-pères, grand-mères, enfin voilà, donc c'est encore plus compliqué quand c'est dans la famille, on dit non, tu ne vas pas dénoncer mamie ou papy, enfin c'est terrible quoi, ou le frère ou la sœur, enfin voilà, c'est vraiment très complexe, et de toute façon, souvent on dit ça, c'est une bombe à fragmentation dans une famille, de toute manière, quand ça arrive, ça ne peut que être difficile par la suite. Il n'y a pas d'un seul coup d'apaisement général. On est obligé de passer dans une tornade de destruction massive. On ne peut pas y couper. C'est comme ça, quoi. Donc maintenant, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités aussi.
Et il y a aussi une culpabilisation de la victime en général. Ce qui glace dans votre film, plus encore que dans le spectacle, c'est d'abord le tribunal, les témoignages qui sont violents déjà. par ce qu'il révèle, et surtout l'attitude du prédateur qui culpabilise sa victime en disant qu'elle était consentante, que c'est même elle qui l'a incitée, et surtout après la peine qui est attribuée. La peine paraît totalement dérisoire par rapport au crime commis.
Déjà là, pourtant, il y a une peine qui paraît énorme par rapport à ce qui est
la moyenne.
Par rapport à la moyenne, c'est Ah oui, parce que la plupart du temps, il y a rien. Il y a carrément du sursis.
Non, mais déjà, Odette, dans le parcours d'Odette, la chance qu'elle a, la chance, c'est entre guillemets évidemment, mais c'est que l'affaire est jugée en cour d'assises. Il arrive fréquemment que des affaires de viol soient dirigées en correctionnel et que du coup les crimes deviennent des délits. Et du coup, Eric dit très justement, les agresseurs s'en sortent avec des peines parfois juste de sursis ou un avertissement ou une obligation de soins. Mais enfin, il y a un vrai message d'impunité quand même encore en France par rapport aux agresseurs sexuels.
Non, c'est ce que j'allais rajouter en France, parce que il y a déjà un élément énorme que vous avez en Suisse, c'est l'imprescriptibilité, ce que nous n'avons pas.
Vous n'avez pas obtenu en plus le prolongement, hein.
Il a été de 10 ans. 10 ans.
Sur les crimes, ils ont rallongé de 10 ans les délais de prescription, donc les victimes de viol avec pénétration, donc peuvent porter plainte jusqu'à 48 ans. En revanche, sur les attouchements, Ça n'a pas bougé jusqu'à 28 ans.
Ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a eu là, il y a quelque temps, là, un vote du Sénat pour l'imprescriptibilité des fautes d'avocats. Voilà, alors ça, si les avocats font une faute, vaut mieux être pédophile, hein, franchement. Sincèrement, entre avocat et pédophile, moi, je dis, si j'ai un gamin, je lui dis pédophile, parce que avocat, ça ne marchera pas. Hein. Non, mais c'est complètement fou. Donc, il y a une vraie chape, il y a une. Comme la mémoire traumatique, quelque chose que, depuis la guerre du Vietnam, tout le monde sait que quelqu'un qui a.
Même 14-18, hein,
voilà.
Déjà.
Mais bien sûr, 14-18, le stress post-traumatique, l'amnésie
de ce qu'on a vu, parce que c'était tellement atroce que c'est. Tout le monde le reconnaît, voilà, tout le monde le reconnaît par cœur. Par contre, quand on parle d'un cas pédophilie, alors là, ouais, c'est pas sûr. Hein. Il y a une chose fabuleuse, je pense qu'Andréa le dira peut-être mieux que moi, mais sur l'invention du souvenir, c'est-à-dire qu'il y a, une théorie sur qu'on peut inventer le souvenir. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle
la théorie des faux souvenirs.
Des faux souvenirs. La mémoire traumatique serait en fin de compte l'invention d'un faux souvenir mélangé à des choses qu'on a entendues ou d'autres victimes qu'on mélange et on crée son propre souvenir.
Donc on a fabule.
Ben voilà, bien sûr, mais c'est très, très.
C'est très insultant pour.
Très insultant, oui.
Pour les victimes. Et en fait, par rapport à ce que vous décrivez tous les deux, on a l'impression que le système, en tout cas, de jurisprudence en France est resté ancré à la fois dans cette éducation judéo-chrétienne, où il y a le pardon, forcément, pour celui qui a péché, et puis aussi un côté, quand un milieu très patriarcal.
Oui, bien sûr. Oui. Et puis, on peut juste constater par qui est au sein du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, je veux dire, juste quand on voit le panel, évidemment, il n'y a pas de grande surprise quand ils prétendent que l'imprescriptibilité est anticonstitutionnelle pour les violences sexuelles. Mais enfin, effectivement, comme dit Eric, sur les fautes des avocats, d'un seul coup, ce n'est plus anticonstitutionnel. C'est vrai que la Constitution en France a un dos large, un grand dos large. Et au final, on avance quand même. On ne peut pas dire que ce soit qu'on soit totalement immobile, mais enfin, on pourrait aller beaucoup plus vite que ça.
Oui. Bon, je vais pas faire haro sur la calotte, mais enfin, quand on parle de judéo-chrétien, c'est effectivement, ça sert beaucoup la religion.
Parce ça imprègne l'Europe
oui, puis
par le sentiment de culpabilité et le pardon qui est nécessaire.
Puis on a quand même beaucoup au niveau de l'Église. C'est vrai que je comprends que le judéo-chrétien essaie de dire le pardon, c'est important. Parce que là, vu ce qu'on est en train de découvrir de plus en plus, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France d'ailleurs, parce que là, il y a les évêques à Lourdes qui sont réunis et qui reçoivent les victimes pour discuter quand même un petit peu. Parce qu'ils veulent. Parce que là, on est en train de perdre des
ouailles. Bonne conscience, surtout.
Oui, puis on perd des ouailles, je pense qu'on en perd beaucoup. Oui, donc, à un moment donné.
L'Assemblée en France a quand même rejeté la commission d'enquête sur l'Église catholique. C'est quand même incroyable. Là, pour la notion de déni, on est vraiment en plein dedans. Quoi.
Votre film a suscité beaucoup de débats, justement, beaucoup de réactions. Peut-être aussi des confessions libératrices, des victimes, qui, grâce à votre film, peuvent enfin extérioriser. Vous pensez que ce film aura aussi une vie pédagogique, peut-être ?
Nous, on dit souvent qu'on a fait ce film par besoin, par envie, peut-être même de manière un peu égoïste, puisqu'on avait On avait besoin artistiquement et humainement de le faire, de le créer. Maintenant, on fait confiance au public, on fait confiance à l'être humain. Et s'il a envie de l'employer en outil pédagogique, préventif ou curatif, mais vraiment, on en sera tellement heureux. Mais oui, évidemment, on est très heureux de ça. C'est vrai que sur toutes les avant-premières qu'on a eues, beaucoup de gens se livrent à la suite ou nous envoient des messages ou nous remercient ou nous disent ça me donne le courage peut-être de relever la tête. Peut-être que je vais aller porter plainte, je vais confronter cet agresseur, je vais parler à mes enfants. Voilà, il y a quand même des prises de conscience qui ne sont pas négligeables. Et bien sûr, c'est une grande fierté pour nous quand même de peut-être apporter cette petite pierre à l'édifice.
Éric ?
Je dirais la même chose, mais c'est en plus, je dirais, c'est que ce que je vois, et j'espère qu'il servira à ça, c'est d'ouvrir les consciences à la parole, dans tous les sens du terme. Parce que, par exemple, les enfants qui sont agressés très souvent par des pédophiles sont des enfants qui sont mal aimés, à qui on ne parle pas, négligés. Et que si on se parle, si on s'ouvre, on arrivera à faire barrage. Parce que on peut faire un nombre de lois pour empêcher la récidive, ou on peut. Oui, mais avant.
C'est le préventif.
C'est le préventif qui est le plus important. Et ce film, c'est un film de vie. Donc on avait envie que les gens sortent, et ce qu'ils nous disent d'ailleurs, ils disent ah ouais, j'ai envie de voir. Mais quand je suis avec des enfants, j'ai envie de les prendre dans mes bras et dire je t'aime, tu sais, qu'est-ce que je t'aime. On a envie d'en parler avec son père, sa mère, on a envie de parler. Enfin, ça ouvre la parole.
Oui, c'est vrai, ce qui est beau pour nous, c'est la meilleure récompense, c'est quand les gens viennent nous voir après le film et nous disent j'avais pas du tout envie de venir, le sujet me faisait peur et puis un tel m'a un peu forcé la main et puis bon je suis quand même venue mais qu'est-ce que j'ai bien fait, mais merci parce que je me sens vivant et oh, je respire et c'est fantastique et je vais pousser tout le monde à y aller. Et évidemment, pour nous, c'est extraordinaire d'avoir gagné le pari, quoi. De dire, OK, n'ayez pas peur d'aller voir un film qui parle de violence sexuelle. C'est surtout un film qui parle de reconstruction. Et la reconstruction est le sujet de tous. Je veux dire, comme disait Éric au début de l'entretien, on a tous des traumatismes, on a tous des casseroles. Il y a un endroit toujours dans notre vie où on a été nié, mal aimé. Et ce film, il parle surtout de ça aussi, de comment on se sort de tout ça, de comment on peut à nouveau croire en soi et se donner un petit peu d'indulgence et d'amour.
Mm-hmm. On a beaucoup parlé de résilience, cette énergie de Phénix qui renaît de ses cendres, on le sent vraiment du film. On doit malheureusement se quitter, on m'a fait signe. J'imagine qu'en tant que parent, ce film est important pour vos enfants.
Oui, ils en sont très fiers, ils sont petits, ils ont 7 et 8 ans, hein. Ils n'ont pas vu le film.
Mais l'âge presque de date.
Oui, tout à fait. Et on en a parlé. Ils savent que c'est une grande partie de mon histoire. Ils savent qu'avec leur papa, on a mis beaucoup de cœur à raconter cette histoire. Ils sont très impatients que le film sorte. Ils sont aussi excités que nous à ce niveau-là. Oui, par contre, ce sont des enfants qui sont briefés. Maintenant, on ne rentre pas dans la parano. On leur a parlé. Mais ils vont en colonie de vacances. Ils vont dormir chez les copains. Ils font leur vie. Et c'est important, je crois, comme disait Éric tout à l'heure, c'est aussi l'importance de la bienveillance dans l'éducation. Et que quand un enfant est aimé, écouté, quand il est libre de s'exprimer, le prédateur va rarement vers ce type d'enfant, quoi.
Voilà. Merci André Bescon, merci Éric Métayer.
Merci à vous. Merci.
Bon séjour à Genève.
Oh oui.